Alors je crois que c'est l'histoire des relations entre la Torah et Israël. Parce qu'à un certain stade du voyage d'Israël dans l'universel humain, arrive le temps où Israël peut dire aux nations, vous voyez, ma femme, ma Torah femme, c'est ma sœur pour l'universel humain. Qu'est-ce que les goyim ont fait? Que les nations ont fait? On va te tuer, on va se la prendre. C'est clair, Ken. Vous voyez que c'est le même péril. On va dire, si c'est ta femme, garde-la, mais si c'est ta sœur, on te supprime. Ben, je crois que le parallèle est aveuglant de simplicité. Quel
passage quand dans le code de bien poser cette question, mais je viens de comprendre quelque chose. Alors, dans la fin du cantique des cantiques, quand il dit, quand il a la petite sœur, il y a l'enfant. Alors, c'est effectivement comme la Torah, ça a été dit.
Dans ce parallèle, mais ce que je veux dire, c'est le péril. C'est le péril. Regardez, la première fois, quel problème de Jérusalem aussi. La première fois que les nations se sont préoccupées du caractère œcuménique de Jérusalem, la ville universelle, c'est quand elle est sous souveraineté juive. Je ne sais pas si vous voyez à quel point, quand elle est sous souveraineté juive, un scandale. Comment la ville universelle, juive, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les goyim manquent d'humour. Okay, c'est scandaleux, enfin c'est comme c'est épais, c'est grossier. Okay. Ah, quand c'était jordanien, le Vatican n'y trouvait pas à redire. Ce n'est que musulman. Mais juif, alors ça dévoile que c'est quand c'est juif que c'est universel, jamais de la vie. Okay? Vous remarquez cela? Alors c'est la seule fois de l'histoire de Jérusalem où la liberté des cultes est vraiment assurée à tout le monde. Et vous ne savez pas ce que ça nous coûte. Toutes les semaines, il faut acheter d'autres matraques. Pour frapper sur les juifs, je sais pas dire. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Si toute la femme est au mari, on est plutôt tenté de tuer le mari pour s'emparer de la femme.
Non.
Une femme qui a un frère, justement, elle est disponible.
Non. Vous voulez qu'on refasse.
Il n'y a pas besoin de donner le frère pour épouser.
Vous voulez qu'on fasse le raisonnement? Voilà. Abraham dit à Sarah. Si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer pour te prendre. Alors dis que tu es ma sœur. C'est clair. Et la question, c'est comme ça. C'est ta femme ou ta sœur? Alors Abraham répond, c'est ma femme et ma sœur. Ça veut dire, vous voulez que je refasse l'analyse? Mais c'est ça que le pharaon et ensuite Abimelech, enfin la civilisation extérieure, n'arrive pas à comprendre. L'enseignement vient du Hafetz Chaim. Il a posé, ça vaut la peine d'ouvrir une parenthèse si vous voulez, il a posé la question suivante. La Torah, à propos de la sortie d'Israël, interdit les sacrifices hors du temple. Or, le sacrifice fondateur de l'histoire d'Israël, c'est le sacrifice de Pâques qui a été fait en Égypte. Donc, question grave. Bon, on peut donner X réponses, mais pour aller à l'essentiel, l'enseignement de Hafetz Chaim ici, il dit ceci. Il y a deux sortes de sainteté. Il y a la sainteté qui est dans la maison, et la sainteté qui est dehors. De la même manière, il dit, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour qui est permis dedans et dans la maison, interdit dehors, c'est l'amour entre l'époux et l'épouse. C'est privé, en public c'est interdit. Vous comprenez, c'est pas la peine de mettre le... Et il y a l'amour du frère pour la sœur, c'est permis dehors, mais c'est interdit dedans. Alors, au niveau du premier homme, il y a un progrès dans les rapports d'autrui à autrui, centraux, c'est-à-dire l'homme et la femme. On dépasse Zahar Unkeva, mâle et femelle, la sexualité qui reste au plan de l'animal, on devient Ish-Isha, époux-épouse. Et c'est pas fini. La reconnaissance de la relation à autrui et la relation à autrui fondamentale, c'est d'abord homme-femme, c'est clair, eh bien, est en impasse. À partir du moment où l'histoire des Hébreux recommence, c'est le problème qu'Abraham reprend en charge. Il se passe rien d'autre, hein, entre Abraham et Sarah. Dis que t'es ma sœur, et jusqu'à ce qu'elle dise qu'il est son frère, pour que ça s'arrange, il faut attendre Isaac et Rebecca. Ils se disent rien d'autre, hein. Et alors, le Rav Israël m'explique, un drache très profond, il explique ceci, tant que l'amour n'est que de l'homme à la femme, c'est pas achevé, il faut qu'il soit aussi du frère à la sœur. Bon. Et alors voilà que au stade où Abraham a reconnu que sa femme, c'est sa sœur, il commence à témoigner, à voyager, à témoigner. D'où l'histoire des douanes égyptiennes. Okay? Et ce message a été entendu, et puis il n'a travaillé que souterrainement. Et vous savez très bien que c'est un des grands problèmes de la société contemporaine. Comment comprendre la relation entre l'homme et la femme? Et c'est dans des impasses, tant qu'on n'arrive pas à retrouver l'équation biblique, qu'il faut que ces deux relations de dignité se complètent, la relation époux-épouse et la relation frère-sœur. Ce n'est que lorsque Rivka dira d'Isaac, je suis sa sœur et il est mon frère, qu'Isaac rit, vous verrez le verset. Alors que son nom, c'est qu'il rira à la fin des temps. Ce n'est que lorsqu'il entend de Rivka, c'est arrangé, le tikkun a été fait, nous sommes frères et sœurs, alors il rit. Okay. Mais le pharaon, à l'extérieur, Abimelech, dans l'histoire, deuxième épisode chez Abraham et chez Isaac, il n'y comprend rien. Alors il dit, je croyais qu'elle était disponible, je l'ai prise. Voilà. J'ai voulu mettre en évidence ce parallèle avec l'histoire d'Israël et de sa sagesse, parce que Raph Esraïm y fait allusion en citant les versets. Par exemple, les versets des Proverbes, Emor la chorma achoti at, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu dis, elle est ma femme, c'est une sagesse privée, particularisme. Dis, elle est ma sœur, formule-la à l'échelle universelle. Vous voyez le danger? Elle est ta sœur, alors on se la prend, et pour être sûr, on te supprime. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Et, ou bien le verset mais, du Cantique des Cantiques, Mi itencha keahli yonek shedei mi vechule. Je traduis, qui fera de toi comme un frère, c'est elle qui parle à lui, allaitant les seins de ma mère, je te rencontrerai dehors, emsa chabachutz et chakra, je t'embrasserai, vegam lo yabuzuli, et on ne me méprisera pas. Vous voyez, la relation entre le frère et la sœur, c'est dehors. Alors, c'est elle qui parle à son mari et qui lui dit, qui fera de toi mon frère que je puisse t'embrasser dans la rue? Vous voyez à peu près le thème. C'est cette dialectique entre le particularisme et l'universalisme. Alors, comment ça se traduit dans notre problème? Sarai, c'est le temps où elle est ma princesse. Sarah, la princesse. Alors, il y a toute une dialectique de la Gemara que nous allons voir. Et alors, maintenant qu'elle est la princesse, elle n'est plus ma princesse. Il dit non, elle reste ma princesse, bien qu'étant la princesse. Vous voyez comment ça s'organise du point de vue formel? Elle a changé de nom, mais le nom antérieur est gardé. Okay? Maintenant, on est les Hébreux. Alors quoi, on va oublier l'araméen? Non, mais on le met à sa place. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est clair? Non. D'ailleurs, sans araméen, on ne peut pas comprendre l'hébreu. C'est encore une autre histoire. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire comment. À la limite, je voudrais choquer personne. Mais ça me rappelle une histoire du temps de l'occupation. On accusait les juifs de prendre tous les métiers. Vous vous rappelez? Même rabbin, avec des juifs. Okay. Je vous dis ça comme ça. Au fond, pour être rabbin, il faut être juif. C'est pas une blague. Qu'est-ce que c'est un rabbin? C'est quelqu'un qui est censé comprendre la Bible. Pour ça, il faut être juif. Je veux dire, à la limite, je dirais qu'il y a que les juifs qui comprennent l'hébreu. Vous allez me dire, alors c'est vrai qu'il y a que les français qui comprennent. C'est vrai. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand on... Bon, bref, c'est clair. Okay. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je me trompe, ou la vogue actuelle du non-mariage dans le couple, est-ce que c'est à nouveau ce problème-là?
Non, je crois que c'est un des exemples, une des illustrations de la réaction contre une certaine forme de puritanisme sociologique. C'est pas cela, mais indépendamment de cela, il y a dans la société contemporaine une recherche réelle de la nature réelle des liens dans le couple. Et ici, il y a un enseignement biblique qui est très important. Lorsque la relation époux-épouse est transfigurée au point, ce n'est pas fini. Il faut qu'elle débouche sur la relation frère-sœur. La recherche en fraternité qui se recherche dans le récit biblique n'est accomplie que si ça va jusque-là. Et puis, il y a un adjectif pour sœur, mais je l'ai oublié en français. Soralité, ce... Soro. Hein? Oui, magie ou casé. C'est très important, ces versets qui nous sont cités. Alors, il y a la sagesse épouse et la sagesse sœur. que le Hafetz Chaim indique en citant les versets Chochmot Bachut Tarona. Les sagesses chantent dehors, dans les rues. C'est les Chochmot Chitzoniot, les sagesses extérieures, qu'on appelle dans le vocabulaire traditionnel juif les sciences. Les sciences, de la science, c'est les Chochmot Chitzoniot. Ça veut dire c'est les sciences du monde extérieur. Okay. Et la sagesse épouse, c'est la Torah. Elles doivent s'éclairer ensemble. Et vous voyez quelle est l'implication de tout ce problème. Okay. Alors, il y a dans la Chochma l'aspect épouse et l'aspect sœur. L'aspect épouse de la Torah ne concerne qu'Israël. L'aspect sœur de la Torah concerne les nations. Le danger, je vous l'ai cité dans l'histoire d'Abraham. Est-ce que c'est ta sœur, est-ce que c'est ta femme? Vous avez compris la cohérence donc de cet enseignement. Et je crois que on le voit bien. Lorsque l'islam s'est annexé la Bible dans le Coran, bon, il a mis les juifs entre parenthèses. Lorsque la chrétienté s'est annexée la Bible dans les évangiles, elle a mis le judaïsme entre parenthèses, etc., etc., etc. Jusqu'au moment où, enfin, les nations comprendront que la Torah, c'est sœur pour l'universel humain, mais épouse pour Israël. Ça commence. Je crois que ça commence. En tout cas, dans le monde chrétien, dans le monde musulman, je suis assez au courant, on est loin de loin. Et j'ai dit une fois, des dernières interviews, j'ai lu au temps de Noël à Jérusalem, des journalistes français, je crois, de l'Express, je ne sais pas si vous avez vu ça, sont venus faire un documentaire sur la Jérusalem chrétienne. Tenez, je vous raconte. La Jérusalem chrétienne. J'ai reçu ces journalistes et puis je leur ai dit, j'accepte de parler avec vous si vous changez de titre. Ça n'existe pas, la Jérusalem chrétienne. Allez voir à Rome. Il y a des chrétiens à Jérusalem. De ça, on peut parler. Ils ont changé de titre, d'ailleurs. Et alors, j'ai indiqué cela, c'est que là, il y a une amorce, une volonté de dialogue réel qui n'a pas existé jusque-là, judéo-chrétien. Comme a dit M. Doufchani hier soir, on ne s'est jamais parlé pendant 2000 ans. Il faut croire qu'il y a un dialogue judéo-chrétien pendant 2000 ans. Il n'existait pas. Okay. Je voulais, je peux en parler, c'est l'histoire, mais c'est clair. Il ne s'agissait que d'une stratégie de conversion de l'interlocuteur juif. Et si jamais l'interlocuteur juif l'emportait dans la controverse, il était attendu par les archers du roi. C'est clair. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Nachmanide a quitté l'Espagne et a fondé la première synagogue sfarade de la ville de Jérusalem que vous visitez si vous y allez, lorsqu'il s'est aperçu qu'il n'y a aucun espoir. Il était dans ses controverses avec les théologiens chrétiens. Donc, alors, il y a quelque chose qui commence. Avec une élite en milieu chrétien, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont sincères. C'est vrai, et ça existe. Je ne sais pas s'il y a la place de dire ça peut être une élite, selon le français même, israélite. Donc, je reviens au problème, c'est que pour le moment, il en est ainsi. Alors, on m'a posé la question avec les théologiens chrétiens. Les théologiens chrétiens, c'est bloqué, il n'y a rien. Musulmans, Ken. Et j'ai ajouté, ça a été imprimé, peut-être que c'est aux théologiens chrétiens d'intervenir, parce que l'anti-judaïsme musulman est d'origine chrétienne. C'est clair. Alors si les théologiens chrétiens interviennent, peut-être ça se dégèlerait. Mais en tout cas, pour le moment, avec les théologiens chrétiens, nous avons, lorsque ça arrive, des réunions mondaines, c'est-à-dire des salam alek. Vous en êtes un autre, mais pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut dire qu'il y a aussi une crainte, parce que les frères musulmans menacent de mort quiconque chez les théologiens chrétiens aurait un dialogue sérieux avec des juifs. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, en tout cas, les arabes, les musulmans arabes, rien du tout. Avec les musulmans non arabes, il y a quelque chose. Mais je pense que tant que les théologiens chrétiens ne diront pas, bon, cet anti-judaïsme dont vous avez hérité des évangiles, on a mis un point final, recorrigez vos textes. Jusque-là, ça en est là. Je referme la parenthèse et on avance, Ken. Alors, Tane Bar Kappara, ça y est avec Sarai, Ken, et vous avez vu le problème. Sarakol, il y a un passage à l'universel de l'identité araméenne pour retrouver l'identité hébraïque et réciproquement, je dirais, le passage de l'identité araméenne à l'identité hébraïque, c'est le passage à l'universel. C'est pourquoi j'ai dit à la conférence de lundi soir, lorsque les juifs non-hébreux parlent d'universalisme, il s'agit la plupart du temps de cosmopolitisme et non pas d'universalisme. Ça se dévoile maintenant que la nation d'Israël est ressuscitée. Il se dévoile que le discours universaliste de beaucoup de juifs pendant 2000 ans n'était que du cosmopolitisme. Ce n'est que par le biais de l'identité nationale spécifique Israël que l'indice de passage à l'universel de l'identité hébraïque est cohérent. Sinon, il s'agit des juifs des nations, c'est-à-dire cosmopolites. Je crois qu'il faut dire cela avec beaucoup de franchise et de courage dans cette accusation d'antisémitisme quant au cosmopolitisme juif. Israël contemporain est responsable qu'il se dévoile que c'était peut-être pas complètement faux. On n'y peut rien, mais c'est cela. L'identité hébraïque de la nation d'Israël en Israël dévoile que beaucoup de discours universalistes juifs de diaspora sont en réalité cosmopolites. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. J'ai dit ça avec beaucoup de précaution. Ken, cosmopolite, ça veut dire on ne fait partie d'aucune nation, mais on est greffé sur n'importe laquelle, interchangeable. Et on formule ça dans un discours citoyen du monde. Citoyen du monde, ça n'existe pas. On est citoyen de telle ou telle société avec relation à l'universel. Citoyen du monde, c'est quoi? Ça n'existe pas. Cet homme de nulle part et de n'importe où, qui se dit c'est moi l'homme, il est en réalité très très précisément banlieusard de telle banlieue. Ken, est-ce que c'est clair ce que je dis là? Par exemple, il y a tout un débat sur l'universel de la pensée de Spinoza. Et de grands historiens de la philosophie ont établi que c'est un socinien. Un socinien, c'est une espèce très rare de la société humaine et qui ne fleurit que dans le royaume d'Orange en Amsterdam hollandaise. Ken, c'est-à-dire c'est très typé du point de vue des catégories mentales. Ken, est-ce que c'est clair? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'appel idéal au niveau des idées à l'idée de l'universel, mais incarnable nulle part, sinon dans des phalanstères orgueilleux de quelques philosophes qui se rencontrent en collège. Pour mépriser le vulgus humain, je pense à Lucrèce. Okay, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, à la grande philosophie épicurienne d'orgueil méprisant sur le peuple humain. Nous, l'élite philosophique, c'est nous l'homme authentique, c'est nous l'universel humain, la mafia des philosophes. Okay, pas plus. Je pourrais même vous citer ça en latin. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez à peu près la gravité du problème. Alors, si j'ai réussi à distinguer ces deux notions, universalisme réel, et je vous donne la constellation biblique de ce problème, et cosmopolitisme, je crois qu'il y a, à part cet universel hébreu dont parle la Bible, au niveau de la personne humaine, il y a un seul universel réel. Je pense toujours au niveau du langage. Vous vous rappelez du premier verset duquel nous sommes partis. L'universel concret, c'est quand il y a langue unique. C'est les mathématiciens. Les mathématiciens ont une langue universelle, et en tant que mathématiciens, ils font partie d'une société universelle, les mathématiciens. Okay, est-ce que c'est clair ce que je dis? La mathématique est une langue universelle, réellement, concrètement. Je crois que c'est la seule. Et à travers la mathématique, elle donne un peu de cela à toutes les autres sciences dans la mesure où elle est le langage des sciences. On peut parler à la limite d'une communauté universelle des scientifiques authentiquement mathématiciens. C'est tout. Okay. Les philosophes sont des chapelles. Il y a une envolée vers le rêve de l'universel. Mais dès qu'on prétend l'incarner dans un langage philosophique particulier, il y a un impérialisme de la pensée. J'allais dire, non, vous n'avez pas idée, mais vous avez idée. Okay. Il faut lire les livres des philosophes. Il y a un terrorisme du langage philosophique prétendument universaliste. qui ne fait pas partie de la grammaire de tel ou tel philosophe ne fait pas partie de l'universel humain. Il n'y a pas d'impérialisme pire que ça. Bien, je le dirais d'une autre manière, je l'ai reçu de mes maîtres, tous les prophètes disent la même chose. Il n'y a pas un philosophe qui dit la même chose que notre. En particulier, il faut citer Hegel, l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire d'une dialectique. L'un contredit l'autre. Et projeter cette méthode de la dialectique philosophique dans le monde rabbinique, c'est ce que font beaucoup de livres contemporains qui paraissent en français et en américain d'ailleurs, c'est projeter la non-convergence, la non-existence de l'universel philosophique dans l'universel talmudique. C'est-à-dire, l'étude du Talmud, c'est cela. Arriver à découvrir, et c'est une joie de l'étude considérable, que tout, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Eh bien, mais on le perçoit qu'il n'y a aucune contradiction, une cohérence absolue. C'est le même enseignement. Dans tout ce qui est dit, c'est Moïse qui parle. Okay ? Et alors que dans l'univers philosophique, ça ne manque pas d'effet culturel. Chaque philosophe a une grammaire géniale de lecture du monde, mais n'a rien à voir l'une avec l'autre. Et au contraire, le fin du fin de la coquetterie, c'est de s'appuyer en s'opposant sur tout ce qu'on a appris des précédents. Et de s'en enorgueillir en plus. Okay ? La preuve c'est que je suis spinoziste, c'est que je ne suis pas d'accord avec Descartes. C'est un peu aberrant, hein, à la limite, parce qu'il n'y aurait jamais eu Spinoza s'il n'y avait pas eu Descartes, en plus. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, je referme la parenthèse. Où est-ce que nous sommes arrivés? On a encore un quart d'heure. Alors, on va faire l'économie de la psaka, si vous voulez, on achève à une heure. Tane Bar Kappara. Bar Kappara enseigne que la cour est l'Abraham, Abraham, au verbe assez. Tout celui qui nomme Abraham, Abraham, transgresse un commandement. Vous voyez jusqu'où ça va? À partir du moment où le passage à l'universel a eu lieu, interdit de revenir en arrière. On n'appelle plus Abraham, Abraham. Vous voyez, peut-être je vais un peu exagérer dans la forme, mais je ne crois pas dans le fond. C'est comme ça qu'il faut comprendre tous ces Israéliens qui vous disent, sans très bien maîtriser le langage qu'ils emploient, sans se rendre compte du caractère aberrant apparemment, disent, en tant qu'Israéliens, nous ne sommes plus juifs. Vous voyez à quoi je fais allusion, Ken ? Et ils n'arrivent pas à savoir s'exprimer, Ken ? Mais je crois que ça vise un peu cela. À partir du moment où la mutation araméen-hébreu s'est faite, on ne revient pas à la préhistoire. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Bien sûr, il y a tous les pièges là-dedans. Ils n'entendent pas par là le contenu des valeurs de l'identité juive, qui était la résistance des valeurs hébraïques. Ils entendent par là le statut historique, le statut sociopolitique, et tout ce que cela représente du point de vue de l'existence, le statut existentiel. Les Israéliens se considèrent comme des juifs sortis des ghettos. Non, ce n'est pas assez bien dit. Les Israéliens se considèrent comme des juifs sortis d'exil. Et l'exil, pour eux, c'est une préhistoire incompréhensible. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Je dirais avec d'autres.
L'histoire d'Israël et Hegel, c'est la qui est vécue comme réalisée en Israël pour ces gens-là.
Par exemple. C'est-à-dire que. Il faut bien le comprendre. Toutes choses égales. Un Israélien né dans le pays considère l'identité juive historique comme préhistorique, tout simplement. Et beaucoup d'Israéliens sentent qu'ils sont contemporains de leur préhistoire. Mais nous voyons ça dans nos familles. Quand je raconte mon enfance juive chez mon grand-père à mon petit-fils, il me regarde les yeux écarquillés, il aime ça, les yeux écarquillés, comme si je lui parlais des dinosaures. Et je me rappelle encore ma dernière petite fille, elle est maintenant mère de famille d'ailleurs, toute mioche quand elle était, elle faisait ses devoirs pour préparer à l'école, et qui était étonnée, sérieusement, elle n'osait pas me le dire, mais elle a dit à sa mère, elle ne comprenait pas comment je savais l'hébreu. Enfin, lui, il connaît l'hébreu. Elle ne comprenait pas, elle était émerveillée. Quoi, papa comprend l'hébreu en hébreu? Mais où il a appris? Il n'était pas à l'école israélienne, alors où il a appris? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Alors c'est un peu ça. À partir du moment où il est Abraham, interdit de le ramener à Abraham. Et il y a cette tentation en Israël qu'on appelle le cananéisme, la tentation de s'en tenir à un chauvinisme particulariste qui n'aurait rien, plus rien à voir de juif dans ce sens de relation à l'universel. Cette espérance que l'identité juive avait gardée sous la cendre. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Je veux dire que d'une certaine manière, l'universel humain ne peut pas entendre la parole juive au nom d'Israël. Elle ne peut entendre que la parole hébraïque au nom d'Israël. Parce que la parole juive est trop particularisée dans le style aram. On est toujours judéo quelqu'un d'autre. Alors, lorsque c'est un juif français qui parle, et on entend un juif français, on n'entend pas Israël. Lorsque c'est, est-ce que c'est clair ce que je dis là? Un juif américain, et ça va à tous les particularismes. On peut faire une psychanalyse des philosophes juifs alsaciens. Ben, c'est de la pensée alsacienne, judéo-alsacienne, mais c'est alsacien. Suisse, il y a des penseurs juifs suisses, mais c'est suisse. Il y a des penseurs, je parle d'autorité rabbinique très noble, des penseurs juifs britanniques qui sont en vol derrière la philosophie anglaise. Et on peut deviner si elle est galloise ou écossaise. C'est pas une plaisanterie pourrie, mais ça va jusque-là. Okay. Réfléchissez bien et vous verrez à quel point il y a ce reflet de la diaspora des nations chez les juifs et que l'identité hébraïque, je l'indexe à la société israélienne contemporaine, elle est autre, tout en étant d'origine juive. Je signe à ça pour que on ait perception du monde de problèmes que cela implique et à quel point la communication entre Israéliens et Juifs est très difficile parce que derrière les mêmes mots, il y a déjà autre chose. Surtout au niveau sociologique. Okay, et les malentendus effroyables qui peuvent... Quand par exemple un jeune Israélien dira à un jeune Juif de diaspora « Moi je suis plus Juif, je suis Israélien », imaginez le malentendu. Le jeune juif de diaspora réagira en disant « Horreur, c'est un traître », alors que le vrai juif, c'est l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Bon, etc., etc. Alors, on continue. Je n'ai marre, et on cite le verset dans le chapitre 17 de Bereshit, « Ve'ashimcha Abraham, et ton nom sera, ça veut dire irréversiblement, Abraham ». Donc, s'il sera Abraham, il ne faut pas qu'il reçoive, qu'il soit de nouveau Abraham. C'est clair? Bon, je continue. Rabbi Eliezer Omer, envers mes larmes. Rabbi Eliezer ajoute, non seulement, comme tu dis, toi, il viole un commandement positif, parce que et son nom sera, il viole aussi un commandement négatif, puisqu'il est écrit, « Velo ikare aod et shimcha Abraham. » Et ton nom Abraham ne sera plus nommé. « Ela me'ata » Alors, s'il en est ainsi, suivez au texte. Akore le Sarai Achinami, ça veut dire celui qui appelle Sarah, l'appelle de nouveau Sarai, c'est la même chose, interdit. Non, Hatam Kutchabrichu Amarle Abraham. En ce qui concerne Sarah, c'est Dieu qui a dit à Abraham, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais les autres doivent savoir que c'est ta princesse. Vous avez vu le raisonnement? Oui. Sarai Ishtechal Kare et Shema Sarai, qui sera Shema. Et là, Mehata, là où je vais arriver. Et alors, s'il en est ainsi, Akorele Yaakov, Yaakov, celui qui appelle Jacob, Jacob, Achiname, transgresse un commandement, puisque le nom Jacob est devenu Israël, Shahani. La Gemara dit, c'est un cas différent. Adam de Hadar Dare, Kha, dans le cas de Jacob, où c'est le verset qui revient pour l'appeler Jacob, Dirtiv, puisqu'il est écrit, on va voir ce verset, c'est dans le chapitre que vous avez, Memzaïn, dans la marge. Même veuve, alors prenez le chapitre 46 en Bereshit. Vayomer Elohim les Israël bemarot alayla, Vayomer Yaakov Yaakov. Alors on va prendre le chapitre 46, vous dites, Ken. Il me semble que c'est 47, mais on va voir tout. Alors, je ne sais pas au fond. Hein.